Moi, je m'appelle Dorothée Saïsambat.
Et moi, Nicolas Aline.
Et on a créé tous les deux la compagnie A en 2003 à Angers. Depuis, on a créé une dizaine de spectacles, là, dont les noms sont indiqués là, qui sont à destination du tout public et qui mélangent du jeu d'acteur, jeu d'actrice avec donc ce qu'on appelle du tête d'objet. Depuis une quinzaine d'années, on travaille pas mal autour de la question de l'altérité, de l'identité, des questions coloniales, des questions telles que l'intégration, la figure du migrant. Ce sont des questions qui sont là, en fait, qui nous habitent et qui s'imposent, en fait. Il y a beaucoup question aussi dans nos spectacles de manipulation, d'enjeux de domination, d'assujettissement, manipulation des esprits, de l'histoire. Et aussi, c'est une raison pour laquelle le travail avec l'objet ou la marionnette à chaque fois a fait sens pour porter ces histoires de manipulation et de rapport de domination. L'exposition, comment on l'a pensée, on s'est dit, voilà, c'est venu encore nous déplacer donc, dans nos pratiques, parce que c'est une autre façon d'envisager l'espace, l'écriture, la circulation, l'adresse aussi au public. Donc c'était passionnant.
C'était vraiment une vraie carte blanche, quoi. Et ça, c'était, on s'est senti vraiment toute la liberté de pouvoir proposer ce qu'on avait envie.
Ça nous a permis de retraverser, et même de se rendre compte, je dirais, mais de retraverser tout le chemin qu'on a parcouru depuis 2003. À partir de ce chemin-là, on a essayé de dégager des dessins, des traces, de suivre aussi des empreintes en fait, qu'on avait laissées auprès aussi de différents collaborateurs, collaboratrices. Donc c'était aussi un cheminement qui nous a nourris et qui nous a aussi bien porté en fait. C'était assez réjouissant. Et on s'est dit qu'on allait proposer... une invitation au public à s'immerger dans notre univers et dans un parcours à travers nos œuvres depuis 2003. Et on a eu envie de mettre en partage et de proposer une immersion la plus sensorielle, la plus intime et ludique possible pour que les gens puissent vraiment être dans le sensible, c'est ça, et puissent percevoir un état d'esprit déjà général. Une esthétique, puisse aussi avoir accès à des cheminements, des réflexions, à certaines de nos sources d'inspiration, à sentir un petit peu comment on élabore effectivement nos spectacles, quels sont les sujets et les questions qui nous bousculent, qui nous animent, et comment on les transmet aussi. On a eu envie aussi de tout au long de pouvoir aussi proposer aux personnes déguisées par nos propositions leur regard sur des tout petits détails, parce qu'on adore travailler sur le détail et la précision nous aussi dans l'écriture de nos pièces. Et là, on s'est dit, voilà, dans ces installations, en les rendant justement les plus signifiantes et autonomes possibles pour qu'elles puissent raconter quelque chose, on a envie de pouvoir aiguiser le regard du public pour les faire un peu débusquer des histoires collectives ou en tout cas des histoires aussi intimes à travers des objets aussi minuscules soient-ils. Quoi. Vraiment, c'était aussi comme ça qu'on l'a inventé, cette exposition. Donc on s'est dit qu'on allait concevoir des installations sur nos différents spectacles. Ce sont vraiment des créations qui sont inspirées de certains de nos spectacles. Voilà, pour en rendre compte.
C'est-à-dire que toutes les œuvres présentes ici, sauf les marionnettes, ont été créées pour l'exposition.
Et donc on a plusieurs espaces, plusieurs pôles. Donc on a eu envie de partager nos biographies. Tous les deux, on a souhaité les rendre tangibles et sensibles à travers des objets, une installation faite d'objets. Donc l'objet valise s'est imposé comme le symbole de à la fois des tournées qui font partie de nos métiers, c'est des métiers où on est beaucoup en déplacement, et aussi ça peut être aussi, on aime beaucoup créer des images polysémiques en fait dans la compagnie. Et les objets permettent justement ça. Et donc dans la valise, on peut aussi se dire que ce sont nos bagages. C'est, voilà. Et aussi, ça évoque l'exil, qui, pour ma part, en tout cas, constitue beaucoup une part de mon identité. On a eu envie de revisiter la question de la biographie avec des objets à travers cette installation. plutôt que de l'écrire sur un papier. Et comme ça, c'est déjà une invitation pour le public à s'entraîner, à muscler son regard et à pister des symboles, à essayer de faire du sens, de faire des connexions entre les objets, et à essayer de débusquer des histoires derrière des objets, des détails. Voilà, donc dans ces valises contiennent des évocations de nos origines, de nos parcours. Et après, on a fait donc plusieurs espaces, plusieurs modules autour de différents spectacles de la compagnie. Cette installation inspirée du spectacle Made in China qu'on a créé en 2015 à Pékin, qui s'est créé entièrement à Pékin avec une équipe chinoise. Alors c'est une œuvre qui évoque une ouverture de rideau revisitée, si je puis dire, puisque les spectateurs et spectatrices arrivés étaient face à un mur. Donc ça peut être une évocation d'une frontière, d'un mur, la Grande Muraille, une façon d'évoquer aussi donc, les rideaux de théâtre, ce mur qui cache, en fait, nous, dans ce projet-là, il y avait un double voyage vers les origines, à la fois moi, personnellement, parce que mon père est du Laos, d'origine chinoise, donc il y avait l'envie de revenir dans ce pays, et aussi de venir dans le pays d'origine de ces objets qui nous côtoient, qui envahissent le monde, qui sont présents à travers le monde et qui, on peut se questionner sur le fait que ça puisse ou pas raconter, créer une culture mondiale. Et pour autant, tous ces objets qu'on connaît, qui se ressemblent, qui sont faits massivement en série, qu'est-ce qu'on connaît en fait ? Ça pose plein de questions pour nous. Qu'est-ce qu'on connaît du pays ? De leur pays d'origine. Est-ce que pour autant la tour Eiffel là, qu'on voit, son pays d'origine, de fabrication, est-ce que c'est Paris, la France, où elle a été faite en Chine ? Voilà, donc ça questionne aussi leur pays d'origine et aussi, et c'est ça qui nous intéressait particulièrement, les personnes, les êtres humains qui les ont fabriqués, puisque ce sont des objets qui sont fabriqués par des êtres humains et pour d'autres êtres humains. Donc on était beaucoup sur cette question-là. La place de l'humain là-dedans. Qui sont ces hommes, ces femmes, voire ces enfants derrière ces objets ? Ici, on a une installation autour du spectacle La Conquête. C'est un spectacle qui questionne les traces de la colonisation aujourd'hui, qu'on avait à cœur de réaliser depuis qu'on a créé la compagnie, hein, depuis 2003. Moi, personnellement, c'était un sujet brûlant qui, dès l'adolescence, dès que je me suis engagée à faire ce métier, j'avais très envie, besoin de partager ce sujet-là. Et Nicolas, voilà, aussi, quand on en a parlé, il y avait une évidence à parler à partager ces questions-là, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, on partage le fait que, pour nous, cette histoire, elle nous concerne tous et toutes, qu'on soit issus d'un peuple colonisé ou colonisateur, et que c'est loin d'être un chapitre fermé de l'histoire. Contrairement à ce que j'ai appris à l'école, personnellement, à l'époque en tout cas. Donc l'idée, c'est, on a réuni aussi sur scène Sika Blondoumé, qui est d'origine béninoise et qui était une amie de longue date, artiste chanteuse, avec qui on partage aussi ces histoires coloniales, puisque donc voilà, entre le Laos, le Bénin, on a grandi, c'est ce qui nous constitue aussi, ces questions coloniales, et ça fait partie de notre identité. Le parti pris qui a été aussi très intuitif. C'est-à-dire que depuis 2003, il y a cette envie-là de travailler autour de cette question-là et avec, par le biais du corps castelé, du corps morcelé, du corps paysage, le corps de Sika, là, d'une comédienne. Donc là, c'est un mannequin, mais on voit sur le film et puis la photo que dans le spectacle, c'est un corps humain, vivant, mais morcelé, qui symbolise de façon donc, allégorique à la fois les pays, les territoires qui sont colonisés et à la fois les personnes, les êtres humains qui sont aussi colonisés, qui sont réduits à l'état d'objet, qui sont chosifiés, qui sont déplacés, qui sont démembrés, ça fait écho aussi au morcellement des territoires mais aussi au morcellement identitaire des personnes colonisées, au fait que ces personnes-là ne sont pas considérées par les colons dans leur intégrité. On peut les déplacer, un homme, une femme, un enfant, peu importe, on ne se soucie pas de savoir qui ils sont. Ça évoque toutes les violences, les mutilations, les pertes humaines qu'il y a eu et qu'il y a dans tout acte de colonisation. Voilà, on s'est inspiré aussi des os humains. Donc ça questionne aussi le fait que ça soit des parties sur ce qu'on cache et ce qu'on montre. Donc ce qu'on veut bien montrer de cette histoire, mais tout ce qu'on cache aussi. Dans le spectacle, la marionnette, parce que donc ça, ces morceaux de corps vivants incarnent et représentent, disons, symbolisent les êtres humains colonisés et les territoires colonisés. Et en regard de ça, la figure du colon, elle est représentée par une marionnette. Pour nous, c'était aussi une évidence, qui est justement déshumanisée. C'est, pour le coup, lui, c'est un objet, c'est une marionnette manipulée et qui a perdu sa conscience, qui a perdu son humanité dans ce processus de colonisation. On voit un chapiteau en bois qu'on avait appelé « haut ». Le principe, c'est qu'on regardait de l'extérieur ce qui se passait et on enfilait ses jambes dans la paroi. Et à l'intérieur, il y avait des pantalons. Donc en fait, les gens, ils se retrouvaient en pantalon. Et il y avait, on voit ici, des bustes. Donc ils recréaient une assemblée de spectateurs, spectatrices. Et voilà. Et donc nous, dans ce que ça pouvait créer comme rapport, il y avait un côté baraque foraine, on vient voir quelque chose qui est caché, quelque chose. Voilà, ça nous a évoqué les monstres, le rapport. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui des monstres contemporains ? Et assez vite, s'est imposé le commerce d'armes, la question du commerce d'armes. Et on a inventé une fiction, on va dire, une histoire, où on invitait les spectateurs, spectatrices, ils étaient reçus comme étant les ambassadeurs et les ambassadrices des pays les plus puissants du monde, donc dans différentes langues, ils étaient invités à trouver leur place, à s'asseoir, et ils assistaient à un salon annuel de l'armement, qui était proposé par une équipe des chercheurs, des chercheuses, dans un laboratoire, et le patron de tout ça, il était représenté par cette marionnette, qui était la seule marionnette aussi du spectacle, qui s'appelle Jean-Louis Crosborg, et qui était le patron d'une multinationale, d'un laboratoire de recherche pour l'innovation militaire. L'enjeu, c'était de faire le pari aussi, de proposer de la marionnette et de l'objet dans un cercle, parce que par définition, c'est très frontal quand même, l'objet et la marionnette, et nous, on s'est dit, oui, mais en même temps, qu'est-ce que ça raconte d'assumer le fait de montrer la manipulation, et notamment dans ces questions-là, pour nous ça fait aussi sens, et aussi d'assumer le fait dans ce dispositif que personne ne voit la même chose, que chacun et chacune a un regard bien défini, bien délimité, bien cadré, et qu'on ne voit pas du tout, on n'a pas le même point de vue en fait, et qu'on ne va pas montrer la même chose à chacun, chacune. Alors ça c'est autour du champ du bouc. C'est une installation autour du chant du bouc. Donc là, c'est une. Alors, le chant du bouc, c'est l'étymologie du mot tragédie en grec. Et donc, nous, on s'est dit, on avait envie d'écrire ce qu'on a appelé une tragédie minuscule, mais universelle, en voulant questionner la figure de la question du bouc émissaire et de l'intégration. Donc, on a inventé à partir de ça une fable. Une fable, tragique. On va dire, tragique et sociale. Alors, on a inventé donc une histoire qui se passe dans une zone pavillonnaire où tout semble aller bien, tout est bien carré, bien maîtrisé, tout le monde. Il y a une espèce de norme comme ça qui tacite, mais qui fait que ça roule, les journées s'enchaînent et tout semble aller bien. Et dans cet environnement arrive un jour une personne qui vient d'ailleurs. Et qui a une autre façon de voir la vie, qui a un bouc, qui jardine différemment, enfin voilà, qui est juste différent en fait. Et ça vient perturber l'ordre établi, ce qui est le propre de la tragédie. Et après, chacun, chacune veut à tout prix rétablir cet ordre, et à tout prix. Des histoires de trahison, de vengeance, et cette personne voilà, c'est ça, elle
va aller jusqu'à, en fait...
On l'accuse à tort d'être responsable, c'est vraiment la question du bouc émissaire, elle va aller jusqu'à
sacrifier, en fait, le bouc qui représente son identité, en fait, le bouc avec lequel il est arrivé, pour pouvoir s'intégrer, en fait.
Donc ça questionne, justement, à quel prix on est... Quel est le prix de l'intégration, en fait ? Et sur la question identitaire, d'une autre manière, c'est ça, en fait, on se rend compte que c'est des fils hein, qui sont toujours là, on tire. Elle a été aussi abordée dans le spectacle « Mauvaise graine ». Et en fait, là, c'était l'idée de revisiter, adapter le conte du vilain petit canard d'Andersen pour le tout public, en prenant, en fait, en s'emparant de la figure du canard comme étant, pour nous, un symbole de la figure du migrant, de l'éternel migrant. Pour nous, Le vilain petit canard, c'est un conte qui parle beaucoup d'une quête identitaire. Et ce personnage du canard, dans ce conte, il est un peu comme le personnage aussi dont on parlait là, du chant du bouc. Lui aussi, il est juste différent. Il ne fait rien de spécial qui vient perturber l'ordre établi. C'est juste qu'il naît. Et dans sa famille, il est différent des autres, donc exclu, abandonné. Et après, il cherche désespérément un endroit, une terre qui pourrait l'accueillir. Et à chaque fois, on lui renvoie que non, il n'a pas sa place là, puisqu'il est différent. Donc il cherche une terre désespérément tout le long du livre et du spectacle. Donc il y a des frontières, il rencontre des canards sauvages. Pour nous aussi, il y a toute cette scène-là avec des chasseurs. Donc nous, on l'a revisité à travers un passage de frontières avec des migrants, une rafle. Voilà, on l'a revisité sous cet angle-là. On aime bien travailler justement à écrire des images et à proposer des endroits où on ne sait plus trop si on doit rire ou frémir et où c'est entre deux, en fait. On aime bien cultiver ça, en fait. On aime bien préciser qu'on n'est pas dans un rire aussi qui exclut et qui juge, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va rassembler, qui va aussi, exorciser un petit peu, enfin, et qui fait circuler une pensée, vraiment. Pour nous, c'est vraiment ça, le rire. Quand il y a un rire dans la salle, c'est ça aussi. Ça circule, en fait, entre les gens. Et ça ouvre. Ça ouvre un espace. Et c'est ça qui est aussi, qui nous met en vie aussi, et qui fait que ça peut aussi nous donner de l'espoir à se dire, ces métiers-là, et faire du théâtre, c'est aussi proposer un éclairage sur notre monde pour peut-être aussi un peu essayer de mieux le comprendre et peut-être arriver à le transformer aussi un jour, peut-être. C'est donc là, il y a deux spectacles. La Chambre 26, c'est ma foi. La Chambre 26, qui était le premier spectacle de la compagnie, enfin même il a été créé avant qu'on crée administrativement la compagnie. Pour le coup, ça a été là un autre chemin d'écriture, puisque là, ça a été à partir d'une collection d'objets, à partir d'une collection de cartes postales et toute la famille de la correspondance autour d'un personnage qui est seul et qui s'invente aussi des histoires à partir de cette collection, à partir des quelques lettres qu'elle a reçues, qui sont son ouverture sur l'extérieur. Et ma foi, qui a une courte forme aussi, autour de la question de la religion et de la sexualité, qui est un solo avec un personnage d'une bonne sœur qui revisite l'histoire, la naissance du Christ, et à sa manière. Il nous tenait à cœur, après, de pouvoir partager dans ce parcours les coulisses d'un spectacle. Donc, pour nous, assez vite, on s'est dit « Ah oui, ça fait sens que ce soit autour de notre dernière création ». Qui s'est faite en mars 2024 et qui s'appelle Un beau jour, et qui est aussi qui a été un autre chemin d'écriture, puisque là, ça a été de composer un portrait qu'on a appelé impressionniste de la chanteuse Barbara. Donc une figure très inspirante de l'émancipation féminine, qui était vraiment à contre-courant dans son époque, aussi bien dans ses choix personnels, mais qu'aussi professionnels. Dans sa façon d'être, de vivre, de revendiquer sa vie et de chanter, de crier, de composer. Puisqu'à son époque, il y avait très très peu d'autrices, compositrices, musiciennes, femmes, qu'on a proposé à travers cette fenêtre. Un moulage de la marionnette du spectacle, quelques prises de notes, un partage aussi d'une façon de fabriquer qu'on a en général sur tous nos spectacles. Et puis voilà, une façon de travailler, parce que nous, on écrit beaucoup, en faisant des allers-retours entre le travail à la table et puis au plateau. Et puis petit à petit, ça s'affine. Et à la fin, il y a vraiment un travail de montage qui se fait, où on va décider d'un ordre, de séquence. Et c'est ce qu'on appelle aussi, c'est toute l'écriture dramaturgique qui avance par strates, comme ça, tout au fil de la création. À la fin, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un espèce de montage où on échafaude des ordres différents, parfois, pour trouver du sens, pour trouver une rythmique aussi. Juste. Et ici, c'était un espace qui s'est aussi imposé dès qu'on a pensé l'exposition, qui est dédié au public. Ouais, c'est vraiment important pour nous de laisser de la place aux spectateurs, aux spectatrices, pour qu'ils puissent projeter leurs propres souvenirs, leurs propres références, leurs propres émotions, leurs propres histoires. Donc, évidemment, qu'on voulait leur faire une place dans cette exposition, donc en proposant deux jeux. Il y en a un qui est ici, qui invite à composer des rébus à partir d'objets, en piochant un mot, et l'idée est de le traduire en objet. Et ça, c'est en référence à un de nos spectacles qui s'appelle Barbe à Rat, qui revisite la chanson Nantes de Barbara, et qui fait partie d'Un beau jour, puisqu'Un beau jour est composé de plusieurs chansons de Barbara, qui sont mises en scène à chaque fois avec un langage différent, objets, marionnettes, images projetées, jeux. Et ici, un autre exercice qu'on invite les personnes à lire les questions, à voyager, à cheminer à travers les différents objets qu'on a proposés et à ressentir et écouter ce que ça peut leur raconter, ce que ça peut éveiller en eux comme sentiment, comme paysage, ce que ça peut convoquer comme bruit. Et est-ce qu'éventuellement, de ces objets, de cet objet, pourraient émerger des histoires tout seul ou en le mettant tout d'un coup en relation avec un autre. Qu'est-ce que ça pourrait faire émerger comme histoire ou comme relation. Voilà. Et puis à la toute fin, on a laissé... on a voulu partager un peu le pourquoi on avait choisi ce nom de compagnie. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent. C'est A, la préposition, c'est un mot. Ce n'est pas la lettre. Donc voilà, il y a un accent qui est un détail de taille, j'insiste dessus, puisque ça change complètement le sens. Et le A, il nous plaisait parce que, on l'a choisi en tout cas, parce que, pour ce qu'il exprime, puisqu'il exprime l'adresse, l'intention. Ça, il est beaucoup question de ça dans nos métiers, et c'est aussi ce qui nous anime dans ces métiers, c'est le lien, le partage. Et on aimait son côté très simple, très court, très simple, est très ouvert, très polysémique. Il est aussi graphique, ce qui nous plaisait aussi. A priori, le A serait un son qui serait commun à toutes les langues du monde. Donc pour nous, c'est comme un cri comme ça de l'humanité. Et ça nous, voilà, tout ça, ça nous a fait l'adopter, ce A. Et on invite le public à nous, s'ils veulent bien sûr, hein, à laisser sur ce petit cahier ce qu'évoque pour eux cette préposition, comme si c'était aussi un côté ouvert et à compléter, en fait, qui fait de la place à l'autre. Voilà, et ça c'est primordial pour nous. Donc chacun, chacune peut, si il le souhaite, laisser ce qu'évoque pour chacun, chacune cette préposition. Voilà.